10 minutes avec
Radio Grenouille. 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec
10 minutes avec Éric Babin, architecte. Il est ici à Marseille à propos des 24 heures de l'architecture qui a pour titre Désir de ville. Éric Babin, bonjour.
Bonjour.
Désir de ville, vous la ville, vous la désirez ?
Ah bah bien sûr, oui. Je dirais même que c'est essentiel et c'est un peu le terrain de jeu des architectes en général.
Mais quelle ville ?
Quel type de ville ? Une ville dans laquelle on verrait toutes sortes de gens. De provenances différentes, de métiers différents, des gens qui habiteraient, des gens qui travailleraient, des gens qui apprendraient. Et tout ça mélangé le plus étroitement possible.
Oh là, mais c'est déjà rentré sans doute dans un projet que vous venez de terminer, un projet de logement. Vous entendant une ville mélangée, tout type de gens, et vous menez notamment un projet de logement.
Alors, le projet, vous parlez du projet de Nantes, oui, 50 logements à Nantes, 50 logements sociaux. Nous, on ne fait que la partie logement. On espère que le quartier aura tout ce dont je viens de parler. Pour ce qui est de la partie logement, on pourrait rentrer un peu plus en détail sur savoir ce que ça voudrait dire habiter en ville.
Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire ?
Habiter en ville, ça voudrait signifier qu'à l'intérieur même de son logement, on a conscience d'être à la fois en groupe avec ses voisins et simultanément dans l'espace de la démocratie, celui de l'espace urbain.
Et que peut l'architecture face à ça, pour répondre à ces questions ?
Beaucoup de choses. Elle peut exclure le logement de l'espace démocratique, ou elle peut au contraire servir cette idée de la ville européenne, d'une certaine façon, qui consiste à placer l'habitant au cœur de la ville.
Et elle peut le servir par des jeux d'ouverture, par exemple, des appartements ouverts sur la ville ?
Alors, principalement, elle va le servir au niveau de l'urbanisme. Hein. Alors là, l'urbaniste, en l'occurrence, prend la de court. C'est pas nous, donc nous, on intervient dans une deuxième histoire qui est comment prendre place à l'intérieur d'un projet urbain. Hein. Donc, au niveau de l'urbanisme, il y a beaucoup de choses qui se décident, c'est-à-dire justement sur la mixité dont je parlais tout à l'heure, mais aussi sur la place du logement, sur le mélange de types de logements et sur la qualité de l'espace public, l'investissement que peut faire la collectivité sur l'espace public. Je dirais qu'à l'inverse, dans d'autres types de villes, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre ou en Asie, on peut assister au contraire à des espaces publics atrophiés. Et du coup, tout se passe dans l'espace privé, c'est-à-dire que l'espace public devient un espace privé, avec une police privée peut-être aussi, avec des écoles privées. C'est une autre façon de fabriquer la ville, de vivre ensemble.
Quand vous travaillez sur des projets, qu'est-ce qui est, disons, premier dans votre approche ? Est-ce que c'est la narration, ce que va raconter le bâtiment ? Est-ce que c'est la performance, c'est-à-dire la forme que ça va prendre et la performance aussi technologique, par exemple, des matières, de les amener à être dans des formes de torsion innovantes, ou autre chose ? Qu'est-ce qui conduit vos projets en premier ?
En premier, c'est centré sur la notion d'habiter. Ça veut dire quoi, habiter à un endroit donné, dans un programme donné ? Est-ce que c'est justement croiser son voisin ou pas ? Est-ce que c'est avoir accès à une vue ? Est-ce que c'est au milieu de son logement prendre conscience de l'espace public et de l'espace privé partagé ? Et donc ça, poser ça comme préalable, ça induit ensuite une manière de formaliser le projet.
Et c'est quelque chose que vous posez également lorsque vous construisez des équipements sportifs ou des équipements culturels.
Absolument. Par exemple, on peut citer cet équipement sportif à Calais, où on a fabriqué un projet qui est fait comme une petite ville, c'est-à-dire où les parties de service sont dans des blocs en pierre et où tout le vide accueille en fait toute la vie comme un espace public finalement, mais qui serait à l'intérieur même du projet.
À vous entendre, j'ai l'impression que lorsqu'on parle d'architecture, ou à vous entendre en tout cas, que la question de l'architecture, il faut la replacer toujours dans un contexte, hein, disons dans un paysage, et que l'architecte est celui qui augmente le paysage avec l'objet qu'il vient poser, et que donc il faut penser en termes de paysage.
Alors, il y a plusieurs façons d'envisager cette question. Alors, le paysage, c'est une donnée du contexte. Alors, pour nous, architectes, on est toujours un peu... On est très... Comment dire, très... Tous, je pense, très intéressés sur la notion de contexte. Alors, qu'est-ce qu'on fait du contexte? Est-ce que le contexte est le paysage, le grand paysage? Est-ce que c'est la ville, l'espace urbain? Est-ce que c'est un contexte économique, même, on pourrait dire? Il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, il y a le projet en tant que tel, et puis le contexte dans lequel il s'inscrit. Et effectivement, une grande partie du travail, c'est de croiser un peu ces deux manières de faire, comme deux trains qui viendraient l'un contre l'autre pour finalement fabriquer le projet.
Quand vous travaillez, vous dessinez?
Bien sûr, oui. C'est-à-dire que la forme est notre moyen de nous exprimer.
Parce qu'il y a les architectes qui dessinent peu.
Bah, ne pas dessiner, alors ça dépend ce qu'on entend par le dessin. Je vois pas très bien comment on peut ne pas dessiner, puisqu'on doit mettre en forme, on doit représenter à travers quelque chose qui est graphique quand même, une réalité future qui ne sera donc pas écrite. On ne peut pas donner un cahier des charges écrit à une entreprise, on est bien obligé de lui donner des dessins. Donc le projet est toujours à un moment donné une manière de dessiner une réalité future.
Quand on regarde les dessins, des projets, on est toujours fasciné. Il y a quelque chose de très beau souvent. Et puis, parfois, quand on est à la phase de la réalisation, c'est-à-dire quand le projet est réalisé, entre la maquette toujours très belle, toujours très lumineuse, et puis après le projet réalisé aux intempéries, l'automne, l'hiver, différence de couleurs et ainsi de suite. Parfois, comme ça, il y a un décalage. Comment anticiper là ces décalages entre une maquette où elle est construite en plein été avec une lumière particulière et puis après le projet une fois réalisé à l'automne, par exemple?
Bah, c'est tout le savoir-faire de l'architecte, finalement, que d'être capable d'anticiper. C'est vrai qu'il y a tout un travail qui consiste à anticiper les choses et à avoir un regard que les autres n'auraient pas, finalement. Alors après, il y a peut-être des architectes qui se trompent. C'est peut-être pas des bons architectes.
Mais c'est aussi la question des matériaux. Il y a certains matériaux qui ont du mal à supporter des changements de température de lumière. Il y a d'autres matériaux qui sont plus accueillants aux changements de lumière. Est-ce que vous avez un matériau précis, particulier, que vous aimez travailler?
Disons que les matériaux ont des manières différentes aussi de s'inscrire dans le temps. Par exemple, si vous travaillez le bois, vous savez qu'il va y avoir une évolution de l'image du bâtiment dans le temps, c'est-à-dire qu'il va avoir la couleur, une certaine particularité à un moment donné quand vous le mettez en place, et puis plus tard vous savez, mais vous devez en tenir compte, que ce bois va devenir gris et qu'il aura une incidence complètement différente sur l'environnement. C'est une anticipation, c'est comme quelque chose qui s'inscrirait dans le temps. Après, vous avez des matériaux qui se modifient dans le temps à court terme. Par exemple, l'aluminium va prendre la lumière d'une certaine façon, enfin anodisé, va prendre la lumière d'une certaine façon, de façon assez soyeuse et très subtilement, être en mesure de varier la manière qu'il a d'être perçu. Et puis vous avez des matériaux plus stables comme je sais pas le béton qui vont être qui vont être moins tributaires de l'état des choses.
Et vous travaillez, il y a un matériau en particulier que vous aimez travailler?
Pas particulièrement, c'est-à-dire qu'en fait chaque projet pour nous peut appeler une matérialité spécifique qui est quand même liée aussi à son contexte. Un contexte qui peut être à la fois un contexte économique, est-ce qu'on a de l'argent pour se payer quelque chose ou pas, ou un contexte géographique qui voudrait dire que, par exemple, on ne ferait pas quelque chose de blanc dans un environnement qui ne s'y prêterait pas, ou au contraire noir, et donc du coup, ça veut dire quoi cette couleur? Est-ce qu'il y a la couleur des matériaux qui viendrait ensuite? Donc nous, si on vous regardez notre production, vous verrez des choses qui sont en pierre, d'autres en bois, d'autres en aluminium, d'autres en béton peint. Il n'y a pas forcément une ligne de conduite précise sur... Il n'y a pas un matériau préalable. C'est-à-dire qu'en fait, le projet est toujours l'occasion de tout remettre sur la table, de tout re-questionner, de tout réinventer.
Vous dites « nous » parce que c'est un duo, hein, c'est une agence à deux personnes, Éric Babin, vous, et Renaud, son prénom.
Jean-François
Renaud. Souvent, les agences, c'est comme ça, une sorte de duo, deux architectes. Comment l'expliquer?
C'est vrai que c'est souvent à deux. C'est que c'est pas... Peut-être parce que ça n'est pas simplement un travail de créateur isolé dans une tour d'ivoire. C'est-à-dire que c'est quand même un art de la contrainte. On est beaucoup dans la... dans le partage avec les gens qui ont besoin, que ce soit des maîtres d'ouvrage, la ville ou des utilisateurs X ou Y. Et donc l'aventure de la conception d'un bâtiment, elle n'est pas juste, c'est quelque chose qui peut se partager déjà. Peut-être à la différence d'un auteur, d'un photographe ou d'un peintre qui serait comment dire, complètement concentré sur sa propre vision des choses. Là, on est déjà ça implique déjà que le travail est ouvert, partageable par la raison. Donc c'est possible déjà de travailler à plusieurs. Hein. Vous avez cité des agences qui sont à deux, mais ça pourrait être trois, quatre, cinq. On peut trouver toutes sortes d'agences. Ensuite, c'est quand même un travail assez difficile qui s'étale dans le temps, qui nécessite beaucoup de compétences différentes et variées. Et je pense que ça explique aussi pourquoi on hésite à le faire seul. Voilà. Et que c'est assez rassurant de pouvoir être épaulé, de partager toutes ces difficultés, ces combats aussi qu'on est amené à suivre à travers plusieurs années, parce qu'un projet s'étale sur plusieurs années.
J'imagine que avec votre agence, vous ne répondez pas à tous les appels d'offres qui sont publiés. Quels sont les critères fondamentaux pour vous, les critères nécessaires pour que vous vous engagiez dans une réponse d'appel d'offres?
Alors, on essaie quand même d'être assez ouvert parce que on va être retenu ou pas retenu quand on répond à un appel d'offres, c'est-à-dire qu'on envoie parmi 200 ou 300 agences une candidature qui sera peut-être retenue qu'une fois toutes les 100 fois. Donc, il faut quand même pas être trop sélectif. Et par ailleurs, on cherche aussi à ne pas se spécialiser, bien sûr, parce qu'on considère que finalement, travailler sur une villa, travailler sur du logement social, du logement privé, un équipement sportif ou culturel, tout ça, c'est nécessaire pour se nourrir soi-même et donc nourrir chacun des autres projets. Donc il est très important, je pense, en tout cas pour nous, et j'imagine que plein d'architectes sont de cet avis, de pouvoir maintenir une production diversifiée, qui nous permet d'appréhender différentes façons d'envisager les choses. Donc les critères, sauf si vraiment c'est à l'autre bout de la planète et qu'il faudrait faire 12 heures d'avion pour faire une heure de, de réunion, il n'y en a pas forcément. Enfin, on essaye voilà, de rester assez pragmatique dans notre possibilité de mener à bien un projet. Mais tout mérite de s'y intéresser.
Et même on pourrait imaginer que par exemple aujourd'hui... qu'un projet inclut la maîtrise d'usage pourrait devenir, par exemple, un critère. C'est-à-dire de se dire, allez, nous nous engageons à répondre qu'à des projets dans lesquels il y a une maîtrise d'usage d'inclus.
Qu'est-ce que vous appelez une maîtrise d'usage ?
Maîtrise d'usage, c'est du côté des usagers qu'ils participent, ceux qu'ils vont utiliser le bâtiment, notamment sur les bâtiments publics, qu'ils participent, disons, au suivi du projet, à sa conception, qu'il y ait ce dialogue tripartite entre, disons, l'architecture, le commanditaire, le constructeur et puis les usagers, quoi.
Oui, là, vous faites plutôt référence notamment à une manière de présenter les choses par Patrick Bouchain, par exemple. Hein, c'est-à-dire que les utilisateurs vont être aussi des partenaires de la réalisation du projet. Oui. Ça reste encore de l'ordre un peu expérimental, enfin, moins pour lui, parce que c'est un peu son fonds de commerce, on va dire, enfin, ses habitudes. Mais ça reste quand même relativement rare dans le cadre de la production actuelle, en tout cas en France. Moi, effectivement, je trouve ça intéressant. Alors après... Je vais répondre dans le sens où chaque projet est toujours une manière aussi de travailler, de retravailler avec l'utilisateur, le commanditaire. Ces questions, il y a toujours une aventure. C'est pas un truc qu'on reçoit en bloc en disant on touche à rien. Enfin, c'est rarement comme ça que ça se passe. Après, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on monte en puissance et que du coup, les vrais utilisateurs participent. Ce qu'il se passe souvent, c'est que les utilisateurs ne sont pas désignés, ne sont pas connus au moment où le projet est mis en place et que l'histoire préalable à la nôtre, qui est avant celle de l'architecte, c'est-à-dire le montage, trouver un terrain, trouver un programme, enfin, les gens qui vont défendre l'idée qu'il y aura telle chose à tel endroit, sont déjà font déjà ce travail avant que l'architecte arrive, et souvent, quand l'architecte arrive, les utilisateurs ne sont pas encore là, et quand les utilisateurs vont arriver, les premiers auront disparu. Et donc, il y a l'unité de lieu, l'unité de temps, c'est un peu un rêve qui n'existe pas vraiment en architecture, hein, puisque les programmes se mènent... Enfin, si on ne prend que la dimension architecturale, on va imaginer qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans d'études, puis ensuite 1 ou 2 ans de travaux. Et puis, si on prend la réalité opérationnelle, il y a peut-être encore 2 à 4 ans qui précèdent le démarrage des études. Donc on va arriver à des projets qui se mènent souvent sur 8 ans, 10 ans peut-être parfois. Et donc c'est difficile de mélanger tout ça, voilà, d'avoir simultanément les financeurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes et les utilisateurs. Ça arrive quasiment rarement, enfin c'est pratiquement même pas possible. C'est-à-dire que c'est même pas est-ce qu'on pourrait faire mieux, c'est que pratiquement c'est pratiquement pas possible en fait.
C'est un marathon l'architecture ?
C'est un marathon, c'est plutôt une course de fond, c'est-à-dire que une course de fond assez longue, hein, où effectivement on va aussi voir des partenaires qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, qui repartent, qui reviennent, des choses qui sont remises en cause en permanence, et effectivement l'architecte c'est toujours celui qui est là du début à la fin, et c'est celui qui a le plus intérêt à ce que tout ça soit réussi, et c'est souvent celui qui va se battre un peu contre tout le monde pour maintenir la qualité du projet du début à la fin.
S'il y avait un projet...
Du projet.
S'il y avait un projet parmi tous les projets que vous avez réalisés avec votre agence, lequel vous voudriez vous arrêter, par exemple, celui dont vous êtes le plus amoureux peut-être?
Bah, j'ai une affection particulière pour ce petit projet de Nantes de 50 logements. J'espère qu'il pourra attirer les votes des internautes qui auront voté pour nous. Et ce soir, j'espère qu'on aura une bonne surprise. Parce qu'il est intéressant, parce qu'il développe une typologie particulière, il est décollé du sol, il fait une place particulière à l'environnement automobile, etc. Mais j'ai aussi beaucoup d'affection, par exemple, pour ce projet du Mans qu'on a livré il n'y a pas très longtemps, qui est un projet très complexe, qui mélange multiplex, salle d'art contemporain, théâtre, et qui s'est mené aussi sur une période invraisemblablement longue de 10 ans, mais 10 ans pendant lesquels on était présents du début à la fin, c'est comme une espèce de sacerdoce où à l'agence il y avait toujours ce projet en toile de fond et toujours 2, 3, 4 personnes qui travaillaient dessus depuis 10 ans. Maintenant c'est livré, c'est un peu comme ça fait un vide.
Ce projet de logement donc à Nantes est effectivement en lice pour le prix du public archi contemporain qui sera remis pendant ces 24 heures de l'architecture à Marseille. Pourquoi vous venez aux 24 heures d'architecture ? Qu'est-ce qui, au-delà du prix et que ce projet est en lice pour le prix, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces 24 heures de l'architecture ?
Alors, le projet, déjà, c'est une bonne raison. La deuxième raison, c'est que ça se déroule à Marseille et que j'ai enseigné l'architecture à l'école de Lumini pendant 4 ans. Et donc, j'ai une tendresse toute particulière, une affection et un amour même pour cette ville de Marseille. Et donc, toutes les raisons étaient réunies pour venir.
Eh bien, bienvenue à nouveau à Marseille. Merci beaucoup, Éric Babin, pour ce petit entretien. C'était donc 10 minutes avec Éric Babin, architecte, dans le cadre des 24 heures de l'architecture qui se tiennent à la Friche Belle de Mai.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...